Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Les 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, quand les enfants adoptés deviennent parents. C'est un sujet qui commence à être évoqué dans les forums de discussion grâce aux associations. On en parle en tout cas avec Marjorie Gesson, fondatrice de l'association MAMPA, qui est la contraction de Maman Papa, qui est une toute jeune association qui vient de se créer justement pour laisser la parole à ces adoptés devenant parents et qui se questionnent énormément et qui est également mère de trois enfants. Marjorie Gesson, Sandra Racine, vous appartenez à l'association La Voix des Adoptés, vous êtes également mère de trois enfants. Et Christian Flavigny, vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, expert dans les procédures d'adoption et vous avez notamment publié « Parents d'aujourd'hui, enfants de toujours » chez Armand Collin. Alors vous nous racontiez votre parcours, Sandra Racine, vous êtes mère de trois enfants. Et comment la chronologie finalement se rejouait aux mêmes âges, il se repassait des choses lorsque votre fille... Par exemple, c'est votre fille a eu 2 ans et quelques, oui. Précisément l'âge auquel vous avez été adoptée,
oui.
Que vous avez commencé une thérapie.
Oui. Ce que j'expliquais, c'est que toute la notion d'abandon, les sentiments que j'ai pu ressentir bébé, en fait, tout ça est remonté assez brutalement, avec la possibilité d'y penser, d'y réfléchir et surtout d'y mettre des mots. Donc du coup, ce que je dis, c'est que tout ce qui était impensable est devenu pensable. Et du coup, j'ai commencé une thérapie. Justement en disant cette phrase-là à la thérapeute qui m'a dit que justement c'était le bon moment puisque tout devenait pensable avec un A, enfin réparable.
Pensable,
voilà.
Et tout pansement.
Et toute la thérapie a commencé vraiment comme ça sur ce sujet-là et m'a amenée à la recherche de mes origines. Ouais.
Marjorie Gesson, est-ce que dans votre histoire, il y a des recoupements comme ça, où la chronologie se recoupe avec ce que vous vivez avec vos propres enfants, ce que vous avez vécu?
Bah justement, j'ai pensé à l'instant, j'ai un album photo à la maison où je mets toutes les photos de mes enfants bébés. Mais ça commence à 6 mois, l'âge à laquelle j'ai été adoptée. Donc en fait, on peut comparer moi bébé à 6 mois, mon mari bébé à 6 mois, mes 3 enfants bébé à 6 mois. Mmh. Et pour moi, ça commence à ce moment-là, quoi.
Ce qui veut dire que vous n'avez pas mis dans votre album photo des photos de vos enfants avant 6 mois.
Ils ont chacun leur album, ça oui. Mais dans l'album familial, proprement dit,
c'est ça.
Il y a vraiment, ça commence
et
à partir
comme
de 6 mois.
Comme par hasard, ça commence à 6 mois,
ouais. C'est ça. Et j'ai même cherché une photo de mon mari à 6 mois,
ouais.
Pas avant.
Oui, c'est ça. Ouais. Christian Flavigny, alors, sur cette chronologie qui se rejoue quand on devient parent, c'est tout de même assez incroyable.
Et c'est incroyable, mais c'est comme ça que ça marche. On devient parent depuis le fait d'avoir été enfant. Et en effet, c'est un moment où ressurgissent un certain nombre d'émotions, de sentiments, de difficultés, mais aussi cette possibilité de restituer à ce moment-là, et c'est par cela que l'on devient parent. Alors, ceci dit, je voudrais un petit peu, je dirais, élargir peut-être la réflexion, parce que, en rappelant que, je dirais, l'adoption, d'une certaine manière, c'est le processus qui permet de devenir parent, même pour une femme qui a porté l'enfant dans son ventre, dans ses entrailles. Je veux dire, il faut que cette femme adopte cet enfant. C'est un processus psychologique. Il faut qu'elle dise, voilà, il est mon enfant. Et il y a des femmes qui n'y parviennent pas.
Il y a toujours un processus d'adoption.
Exactement.
Même pour des parents biologiques.
Exactement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est encore plus net pour les pères. Parce que les pères, on peut dire que tous les pères sont adoptants. Les pères, on leur dit c'est ton enfant. On va lui donner le biberon. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'adoption, c'est le processus fondamental qui permet de devenir parent, qui fait que l'on devient parent. Alors, pour cela, il faut pouvoir s'appuyer sur tout ce qui s'est passé étant enfant dans la relation avec ses propres parents. Et à ce moment-là, effectivement, c'est le point d'appui qui va être essentiel pour tous les parents, mais à ce moment-là, avec le point de fragilisation qui va concerner le jeune qui a été adopté. Parce qu'à ce moment-là, il va revenir la question, quel est ce point d'appui? Est-ce que ce sont mes parents d'adoption? Généralement, les parents d'adoption comptent considérablement, bien sûr, dans la vie. Mais il y a quand même cette question de cette femme qui n'est pas devenue la mère. Et à ce moment-là, cette question va revenir. Donc, effectivement, là, à ce moment-là, les points d'appui vont se chercher d'une manière un petit peu différente. C'est cela qui fait peut-être le point plus fragile à ce moment-là de devenir parent lorsque l'on a été soi-même adopté.
Mais c'est aussi tout l'intérêt des histoires de Marjorie et de Sandra qui sont là à nos côtés. C'est que finalement, ce qu'elles nous racontent sur leur long cheminement pour devenir parent et qui relève de, d'un passé bien particulier que nous, par exemple, on n'a pas. Mais ça nous enseigne à nous tous quelque chose finalement d'assez universel.
Absolument.
Parce qu'on est tous des parents adoptants.
Absolument. Et c'est ça qui est très important et très intéressant dans l'adoption, c'est que d'une certaine manière, cela rend explicite des processus qu'on ne remarque peut-être pas forcément parce que ils sont implicites lorsqu'il y a le lien biologique, mais en fait non, ce sont des processus essentiels et qui parfois achoppent dans le lien biologique. Donc effectivement, le processus fondamental, c'est ce lien d'adoption qui est, je le reconnais comme mon enfant, c'est ça le lien qui est ce qui établit le lien et ce qui fait que l'on devient parent et que l'on transmet à ce moment-là à son enfant avec tout ce qui s'est passé pour soi, tous les points de repère de sa propre enfance que l'on va faire intervenir dans la relation à l'enfant, etc.
Alors, dans les forums de discussion, tout de même, Marjorie Gesson, Sandra Racine, ça vous le dites beaucoup, il y a beaucoup de questionnements autour des parents, de la peur de ne pas réussir à faire grandir son enfant, à élever son enfant, à devenir un bon parent.
La peur surtout d'abandonner soi-même notre enfant.
C'est d'abord la peur d'abandonner soi-même son enfant.
Une peur,
ça, c'est une peur récurrente.
C'est une peur récurrente, absolument.
La peur de reproduire notre histoire, enfin c'est clair.
Mais pas au bout de quelques années, par exemple, vous, toutes les deux.
Moi, je l'ai plus, j'ai cette peur.
Ça y est. Ah, mais moi, je l'ai eu, cette peur.
Je l'ai eu, mais
moi,
je l'ai plus.
Oui. Oui, je l'ai plus non plus. Mais je l'ai eu par ça se manifestait par des crises de complètement incontrôlables.
C'est-à-dire dans un moment où ça va pas, où on est fatigué, les enfants sont difficiles, on s'énerve.
Dans le quotidien, c'est vraiment que dans le quotidien.
Mais c'est vrai qu'on moi je fais des crises de nerfs, j'arrivais pas à gérer, et j'ai l'impression que j'étais une mauvaise mère, que j'étais incapable de bien élever mes enfants, j'étais incapable de leur donner de l'amour, j'étais pas fait pour.
Et là, le bout du raisonnement, c'est et si je l'abandonnais. C'est ça. Si ça m'arrivait.
Ouais. Qu'est-ce que je ferais?
Je pense qu'on est sévère avec nous-mêmes, du coup.
On est très, très, très.
Alors, ça, c'est, je dirais, la nécessité de s'approprier la maternité avec la question qui est, à ce moment-là, est-ce que j'ai le droit de devenir mère? Et effectivement, lorsqu'il y a des points difficiles dans le passé, à ce moment-là, est-ce que j'ai le droit, malgré ce qui s'est passé, de devenir, comme je le souhaite, la mère de mon enfant? Donc effectivement, on voit comment, à ce moment-là, les éléments de l'histoire, qui peuvent être l'histoire de l'abandon, d'un abandon réel, mais qui peuvent être tous les éléments d'une histoire, un enfant qui, je dirais, a été élevé par sa mère biologique, mais qui s'est senti abandonné par elle, va pouvoir ressentir des sentiments, je dirais, relativement analogues. Donc, effectivement, il faut prendre en compte ces éléments-là, mais je dirais, d'une certaine manière, un petit peu les relativiser. C'est le fait de l'appropriation du fait de devenir parent à son tour. À ce moment-là, je dirais, on fait une certaine somme de ce qui s'est passé, de ce que l'on a reçu et pas reçu. Car c'est ça qui est difficile à ce moment-là, c'est de faire avec le fait qu'on n'a pas reçu peut-être tout ce qu'on en aurait souhaité. Et que néanmoins, on a quand même réussi à grandir et à devenir parent. Donc, il va falloir faire avec cela.
Toutes les deux, vous n'êtes jamais amenées à comparer, c'est-à-dire de vous dire, bah, pour mes enfants, c'est quand même beaucoup plus simple que ça ne l'a été pour moi.
Non.
Non,
pas. Non, moi, je compare pas. Alors, les comparaisons que je vais faire, c'est sur ma vie d'enfant avec mes parents adoptifs. Enfin, voilà.
C'est ça, mais vous ne vous dites pas, mes enfants ont beaucoup plus de chance.
Si. Moi, je me le dis de temps en temps. Je me le dis de temps en temps parce que je suis là, parce que je suis présente, parce que bah, ils manquent de rien. Je travaille pas pour m'occuper d'eux. Et au moins les 6 premiers mois de leur vie, je me le suis dit complètement, dans le sens où j'allaitais mes deux, les 1 et 3, pour être sûre d'être la seule à m'occuper de mon enfant. Je voulais que personne d'autre s'occupe de mes bébés.
Et vous ne vous êtes pas demandé si finalement vous surinvestissiez pas un petit peu trop votre mission de maman?
Au début, si. Mais après, avec le temps, on apprend à se modérer. Mais au début, complètement. Je jubilais quand ma belle-mère donnait le bain de mon fils qui avait 1 an et qui se mettait à hurler dès qu'il la voyait. Je jubilais. Personnellement, c'est affreux, mais c'est parce qu'il y avait personne d'autre que moi qui s'occupait de mon enfant.
Alors Marjorie Gesson, justement, bon, vous avez trois garçons, hein.
Oui.
Donc vous, je le disais en début d'émission, vous avez été adoptée à l'âge de 6 mois au Vietnam, donc vous ne ressemblez pas physiquement à vos parents, contrairement à vous, Sandra Racine, qui avait été adoptée en France.
Hein. Oui.
Est-ce que là, la question du début d'une histoire de lien du sang avec vos enfants se pose?
C'est-à-dire?
Et c'est-à-dire que, bah, pour la première fois, là, vous êtes à l'origine d'une lignée.
Ah, ben, moi, c'est ma grande fierté. Ça, c'est ma grande fierté parce que ils ont une partie de leurs origines qui vient du Vietnam.
Et l'autre qui est française. Vos enfants vous ressemblent forcément un peu, hein.
Mais pas tant que ça, parce que mon bébé, mon premier garçon, quand il est né, était blond. Donc ça, j'ai pas compris. Quand à 6 mois, il avait 42 fièvres, je l'emmenais aux urgences. Il y a un pédiatre qui m'a très gentiment dit: est-ce qu'on attend la maman? Donc physiquement, non,
il avait aucune réminiscence de traits asiatiques en lui.
Pas du tout flagrante. Il a plus, il tient plus de du français que de l'Asie.
Et les deux autres garçons?
Alors le deuxième, oui, le petit deuxième, je pense qu'il me ressemble un peu plus. Et le troisième fait un petit peu mélange, mais beaucoup moins flagrant que le premier.
Si vous aviez eu une fille, ça aurait été différent, par exemple la ressemblance, la question des liens du sang, tout ça?
Je vois ma sœur qui a une fille et qui a un lien absolument incroyable
qui
avec sa fille.
Qui est votre sœur, mais qui n'est pas votre sœur biologique.
Voilà,
hein,
c'est
qui a
ça,
été adoptée.
Qui est adoptée aussi. Je vois le lien qu'elle a avec sa propre fille, et je pense que j'aurais été pire. Parce que c'est la seule fille, parce que c'est... Bah,
c'est son double ?
C'est mon double, c'est, je pense que j'aurais reproduit énormément.
Sandra Racine, pour vous ?
Ah, moi, j'ai que des filles. C'est le contraire. Oui, enfin moi, j'ai un lien quand même assez fusionnel avec mes filles. Cette idée aussi de vouloir vraiment être sur superwoman, quoi, en maman, en voulant tout faire. Et je pense que moi, on a une certaine sévérité envers nous-mêmes. On veut être mieux que les autres. Enfin, je pense qu'on.
Mais enfin, ça, c'est un grand classique.
Oui, pour voilà,
toute
c'est
personne
pas typique
qui
devient de
l'adopter, parent.
Oui.
Hein, on est toujours persuadé qu'on va mieux faire que ses parents. C'est un moteur, ça, en même temps. Bon, et puis la vie nous apprend que bon, on fait mieux sur certains plans.
Au fil des années, on déchante.
Voilà, et puis pas forcément mieux sur d'autres. Bon, et puis nos enfants, en grandissant, nous rappellent que voilà, on n'est pas si parfait que ça. Donc voilà, ça fait partie de la vie. C'est peut-être plus sensible là, en effet, dans le moment dans la question de l'adoption, mais c'est quand même un processus général d'une certaine manière habituelle.
L'enfant adopté, selon qu'il devient parent avec une fille ou un fils, c'est différent ? Il y a des choses différentes qui se jouent ?
Pour tout parent, ce sont des choses différentes. La question identificatoire est très différente. Dans la relation mère-garçon et mère-fille, bien sûr qu'il se joue des choses très différentes. Et c'est nécessaire comme ça. C'est important comme ça
mais
pour
l'enfant. Mais mère-fille, c'est le double.
Ah,
alors,
mère-fille,
le double, d'une certaine précisément, manière. Qu'on ne pouvait pas... Bon.
Oui, enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu le lien adoptif. Bon, alors là, on parle beaucoup, en effet, du fait qu'il y a eu l'abandon, mais il y a eu le lien adoptif.
Oui,
alors,
il y a bien une mère, on est
oui,
bien d'accord.
Il y a une mère, il y a un père. Bon, alors, le lien adoptif cherche au mieux à reconstituer ce qui a été fragilisé dans la vie affective de l'enfant. Et on sait qu'il y a eu une fragilisation considérable, bien sûr. Mais néanmoins, ce lien adoptif vient quand même reconstituer, dans la plupart des cas, suffisamment pour qu'en effet, l'intéressé puisse devenir parent à son tour. Donc,
alors,
malgré tout.
Justement, on n'en parle pas tellement des parents adoptifs depuis le début de l'émission. Vous avez bien des parents.
Oui.
Quelle est la relation avec votre mère adoptive, avec votre mère tout court, hein, d'ailleurs, pendant la grossesse et puis les premières années quand vous élevez vos enfants. Est-ce qu'il s'est passé, il s'est rejoué des choses là aussi un petit peu compliquées, Sandra Racine, par exemple.
Oui, ben moi je trouve qu'on se retrouve dans un conflit de loyauté avec.
Conflit de loyauté.
Oui. Parce qu'en fait, on fait face bien souvent, c'est pas toujours le cas, mais la stérilité de nos mères adoptives. Et notre grossesse à nous, en fait, on la vit avec distance avec elle. En fait, on ne partage.
Ouais, on peut pas comparer.
On peut pas partager ça. Vraiment,
en tout cas, il y a une pudeur qui vous empêche de dire à votre mère, regarde comme c'est extraordinaire ce que tu n'as pas connu.
C'est ça. C'est moi, j'avais complètement peur de lui dire, mais c'est génial quand je le sens bouger, quand mon ventre il s'arrondit, voilà. Et toute la question, enfin j'avais plein de questions en fait. Quand je pense la première fois qu'on est enceinte, toutes les femmes se posent mille et une questions. Et ben j'avais pas cette possibilité de le partager avec elle. Elle pouvait pas répondre à ces questions-là. Oui. Et ça a été vraiment très douloureux pour moi.
Oui, là ça a été aussi pour moi.
Christian Flavie.
Oui, mais c'est vrai que une des questions qui se pose dans l'adoption, c'est pour le couple qui adopte, si il a adopté par le fait d'une stérilité, de surmonter le fait qu'effectivement, bon, il ne deviendra pas parent par la biologie, mais par le processus de l'adoption. Et bon, il peut rester quelque chose là qui est aussi un petit peu comme pour l'enfant, il est un peu difficile de liquider la question de l'abandon. Pour le couple, il peut être parfois un peu difficile de liquider la question de la stérilité. Et on voit que cela redevient un petit peu en jeu, bon, et un petit peu compliqué.
Et puis là aussi, ce sont d'anciennes douleurs pour les parents adoptifs
exactement.
qui sont ouvertes.
Néanmoins, ce couple à ce moment-là devient grands-parents, et ça c'est quand même généralement une grande joie, une grande émotion
mais
pour eux.
Mais avec des questions pour eux aussi ?
Oui, je pense qu'ils deviennent grands-parents, certes, voilà, mais je pense que voir leur fille enceinte alors qu'ils l'ont pas connue, donc ils deviennent grands-parents quand même, du coup par des liens de sang, enfin, c'est quand même compliqué. Je pense que c'est
bien
compliqué
sûr.
Pas longtemps.
Ils vous ont dit, on a peur de pas se sentir des grands-parents comme les autres.
Ils ont souffert de la crainte en fait que il y avait des grands-parents avec des liens de sang et des grands-parents qui n'auront pas de lien de sang. Mmh. Ils avaient l'impression qu'ils seraient peut-être moins légitimes.
Oui, il faut qu'ils adoptent aussi à leur tour.
Voilà, mais une fois que le bébé est là, qu'ils l'ont tenu dans les bras, je pense que c'était fini. Mais
moi, je crois, mes parents ne se sont jamais posé la question. Pour eux, c'était évident que mes enfants étaient leurs petits-enfants. Ils sont jamais, hormis la grossesse où effectivement on se posait pas mal de questions, enfin moi je me posais pas mal de questions, je pense que naturellement mes enfants sont leurs petits-enfants.
Ouais, mais c'est dans l'autre sens en fait, c'est pas, la question c'était savoir si l'enfant allait les reconnaître autant que les grands-parents comme les autres. C'est plus eux, je pense qu'ils avaient très bien compris, c'était leur petite fille qui arrivait, etc. C'était plus dans le regard de l'enfant, ils avaient
inquiets,
peur.
C'était inquiet en fait.
Voilà.
Et sur ce qu'on transmet au niveau génétique, là aussi, niveau médical, beaucoup de questions, et vous répondez, je n'en sais rien.
Bah tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait voilà, quand on est enceinte, on nous pose 150 000 fois, c'est quoi vos antécédents familiaux ? Eh ben, je sais pas. Voilà, je sais pas, et je peux pas y répondre. Et c'est quelque chose de difficile parce que pour la première fois, on va avoir un lien de sang avec quelqu'un, la moitié de notre sang en fait, ce qu'on connaît pas. Et puis il y a une espèce d'inconnu encore qui ressurgit.
C'est ça. Et toujours. Et là, il faut assumer d'être au début de la lignée.
Voilà.
Quelque part.
Oui. C'est ça.
33-1-84-22-71-71. Il nous reste quelques minutes si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Si vous-même vous reconnaissez dans les témoignages que vous êtes en train d'entendre dans l'émission, les enfants adoptés qui deviennent à leur tour des parents et toutes ces questions qui ressurgissent. On y revient juste après Houdem.
Who them? Who them? Why would disrespect right?
bien sûr RFI, 7 milliards de voisins, Koulé Doubé, Houdem, et nous parlons des enfants adoptés devenant parents avec de multiples questionnements qui ressurgissent, non seulement au moment de la grossesse, mais après aussi lorsqu'on élève ses enfants. Alors, est-ce qu'il faut parler à ses enfants de son passé, de son histoire, qui n'est pas une histoire comme les autres? Comment avez-vous fait toutes les deux? Sandra Racine, par exemple, vous avez trois enfants.
Oui, alors moi, ça me paraissait important, en tout cas, de partager mon histoire avec elle, parce que... Je pense que mon histoire est liée à la leur, comme celle de ma mère biologique est liée à la mienne, et que ça fait partie de leur histoire, de connaître d'où on vient. Et
vos filles ont l'âge d'entendre une histoire? Enfin, vous allez me dire qu'on peut raconter une histoire à un bébé de quelques mois.
Oui, voilà. J'ai fait de manière différente pour les trois. J'ai fait des tests, en gros. La première, j'ai essayé de lui expliquer dès qu'elle est née, que j'étais pas née dans le ventre de mamie. Mais dans le ventre d'une autre femme, enfin, je savais pas trop à l'époque mettre des mots aussi sur l'abandon, parce que le mot abandon, on n'est pas toujours capable d'y mettre des mots, donc je comprenais pas non plus toute mon histoire. Donc j'ai essayé de faire, mais du coup, avec ce que j'avais comme capacité. Et puis finalement, mon aînée, elle a vécu aussi la recherche de mes origines, donc tout ce chamboulement, parce que c'est un énorme chamboulement, la recherche des origines.
Donc parce que vous avez retrouvé votre mère biologique, il faut préciser.
Voilà, quand mon aînée avait 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc du coup, elle a vraiment vécu ce volcan là, cette éruption. Donc du coup, j'ai obligé de lui en parler. Elle a intellectualisé très rapidement le mot abandon, alors je l'ai pas prononcé. Et du coup, moi, elle a vu un pédopsychiatre 2-3 fois pour l'accompagner, mettre des mots dessus, et puis après, plus rien. Après, elle a posé des questions, régulièrement, en fait, ça tombait comme ça, elle posait des questions. Et puis souvent, elle pleurait, en fait, quand on en parlait. Et donc, il y a pas très longtemps, j'ai posé la question pourquoi elle pleurait chaque fois que j'en parlais, et elle a pu me dire qu'en fait, elle pensait que si ça m'était arrivé, peut-être que ça lui était arrivé.
Mais elle n'osait pas. Peut-être moi aussi, voilà. Je suis adoptée.
Voilà, mais elle n'osait pas me poser la question, enfin, je pense qu'elle avait peur de la réponse. Voilà. Donc une fois que ça a été posé, rassuré, maintenant elle en parle avec grande facilité. Je pense que la voix des adoptés aussi, l'association, ça l'aide aussi beaucoup en fait, puisque il y a une espèce de
elle rencontre
d'autres adoptés, des enfants d'adoptés, enfin voilà. Et du coup, il y a une espèce de normalité là qui apparaît. Du coup, voilà. Pour la deuxième, j'ai fait différemment puisque elle est arrivée après la recherche de mes origines, puisque j'ai rencontré ma mère biologique puisque j'arrivais pas à tomber enceinte, et que donc un mois après l'avoir retrouvée, je tombais enceinte.
Ça, c'est extraordinaire, voilà.
Donc du coup, j'avais un peu mis tout ça de côté, j'avais plus trop envie d'en parler, pas trop envie de l'embêter avec ça. Donc je me suis dit, je vais attendre les questions. Et quand les questions sont, enfin les questions sont jamais vraiment arrivées, et puis on a dû le raconter en urgence.
Et pour ah oui, parce que là il y avait un problème.
Voilà, il y avait un petit problème relationnel avec son papa, et du coup on a dû voir un psy en urgence qui nous a dit ouais, mais là elle fait pas partie du secret familial,
il faut lui expliquer. Et pour la troisième.
Alors là depuis la grossesse, c'est-à-dire que mais là je suis vraiment très à l'aise avec l'histoire, enfin avec ça. Et du coup, voilà, j'ai pu lui dire depuis que je suis enceinte, je lui répète régulièrement.
Et pour vous, Marjorie Gesson?
Alors moi, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue tous les quatre à table. Je leur ai toujours dit depuis le début, hein, moi je leur ai jamais caché, mais il y a un moment où ils en prennent conscience, ils en ont pris conscience il n'y a pas très très longtemps, du fait d'avoir adopté un chien, donc ça leur a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc ça c'est la première des choses, et donc et après mon Cyprien qui me dit mais si je comprends bien on a 4 grands-parents, 4 grands-mères, 4 grands-pères, oui donc 2 qui sont au ciel sûrement, donc il faudra toujours que tu les respectes, que tu les aimes à ta manière. J'essaie de leur montrer qu'il y avait toujours eu de l'amour dans tout ça malgré tout. Que s'il y a eu un acte d'abandon, et aussi, comme vous disiez tout à l'heure, un acte de don, et que il fallait vraiment respecter les grands-parents de l'autre côté.
Christian Flavigny, oui.
Oui. Alors, à chaque famille, sa façon de construire cette histoire avec ses particularités, mais toute famille a des particularités historiques. Bon, donc à chaque famille, sa façon. Bon, l'important, en effet, c'est que soit aussi clair que possible. Donc, cet élément. Qui est quand même une épine dans le passé, et qui est la question d'abandon. En effet, avec cette femme, nous nous sommes quittés, elle n'est pas devenue ma mère, je ne suis pas devenu son enfant, nous sommes quittes. C'est cela qui est important, et je le dis là, je le résume, je sais que c'est pas facile, hein, que c'est tout un parcours, tout un processus qui passe par quelque chose qui bouscule beaucoup sur le plan affectif, notamment au moment de devenir parent, mais c'est ça qui est l'essentiel. À ce moment-là...
Ça, c'est ce qui est essentiel pour s'autoriser à devenir parent.
Exactement, et aussi pour raconter à ce moment-là les choses, parce qu'à ce moment-là,
Cette femme n'est pas devenue ma mère, je ne suis pas devenue son enfant, nous sommes quittes.
Voilà, nous sommes quittes, exactement. Voilà, il n'y a pas eu de faute commise, ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà. Et à ce moment-là, l'histoire aussi se raconte plus sereinement, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on raconte son histoire et c'est ce qui s'est passé et ça n'empêche pas, je dirais, tout l'engagement d'une affectif. Finalement, ce qui inquiète les enfants, c'est d'être les bons enfants pour leurs parents et c'est ça qui concerne les enfants ceux de Marjorie comme ceux de Sandra. Donc.
Et aujourd'hui, toutes les deux, c'est cette force de surmonter de l'abandon, vous en tirez une force pour vos enfants ?
Absolument.
Ouais, une grande estime de soi, ça c'est clair. Et puis une force, oui, parce qu'on peut échanger avec sérénité.
Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Marjorie Gesson, votre association MAMPA, donc, discuter de toutes ces questions des enfants adoptés qui deviennent parents. Sandra Racine de La Voix des Adoptés. Vous retrouverez tous les liens internet sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins, où vous pouvez d'ailleurs écouter l'émission. Et Christian Flavigny, pédopsychiatre, vous avez beaucoup écrit sur la famille, notamment « Parents d'aujourd'hui, enfants de toujours », édité chez Armand Collin. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur l'illettrisme de l'argent. Des personnes surendettées qui ne parviennent pas à gérer leur budget, mais le peuvent-elles vraiment ? Les surendettés sont-ils coupables en pleine crise économique et comment les aider ? Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.